Chapitre 21. Richard suivit la frêle jeune fille désormais dotée d'une aura verte par la lueur du globe lumineux. Comme dans les appartements de Samantha, les murs de ce tunnel avaient été soigneusement polis, le plafond et le sol étant eux aussi très réguliers. En revanche, il n'y avait aucun ornement sur ces cloisons parfaitement monotones, n'étaient d'infimes variations de densité de la pierre. Dépourvu de meubles, d'étagères ou de niches murales et même de bancs, ce corridor fit une bizarre impression aux sourciers. On eût dit qu'il avait été conçu pour ne pas attirer l'attention, les personnes qui l'empruntaient n'ayant aucune raison de s'y attarder. Pourtant, la finition soignée laissait penser que les artisans, ici, avaient mobilisé tous leurs talents et toutes leurs compétences. Étrangement, ce décor incita Richard à évoquer certains couloirs du Palais du Peuple, la résidence ancestrale des seigneurs Rall. Ornés de magnifiques tableaux et de superbes statues, ces corridors-là avaient pour subtile mission de rappeler au seigneur Rall, chaque fois qu'il les empruntait, son devoir envers la vie, en d'autres termes, son obligation de la protéger. Par son austérité même, le tunnel où le guidait Samantha paraissait au contraire rappeler à quiconque y passait qu'une tâche des plus urgentes et des plus graves l'attendait ailleurs. Quelle tâche? C'était toute la question. Sans être sinueux, le couloir n'avançait pas en ligne droite. Cette manière de s'enfoncer au cœur de la montagne ne devait rien à des préoccupations esthétiques. Richard en aurait mis sa main au feu. En tournant très amplement, en douceur, au lieu d'offrir une succession de bifurcations à angle droit, le corridor contribuait à ne pas détourner de ses pensées l'homme ou la femme qui le remontait. Après une assez longue marche, Richard et sa guide arrivèrent devant une porte en tout point semblable à la précédente. Là aussi, un bloc de pierre faisait obstacle à d'éventuels intrus qui auraient réussi à franchir la première ligne de défense. Sans hésiter, Samantha posa sa paume sur la plaque de métal fixée dans la roche. À cet instant, remarqua Richard, le globe lumineux brilla plus intensément, comme si la magie venait d'identifier une personne autorisée à franchir la porte. Quand on s'y connaissait un peu, ça indiquait que ce champ de force était plus puissant que le précédent. Dans le même ordre d'idées, le bloc de pierre se révéla plus grand et plus lourd que le premier. La montagne trembla quand le grand disque minéral commença à rouler sur le côté vers la droite, soulevant des colonnes de poussière et écrasant sous son poids des cailloux et des pierres. Lorsque cette porte eut fini de s'insérer dans son logement, creusé à même la montagne, Samantha franchit le seuil et fit signe à Richard de la suivre. Cette fois, elle ne prit pas la peine de remettre en place le bloc de pierre. Le nouveau tunnel était une bonne demi-fois plus large que le précédent. Ses murs étaient également polis, tellement polis en fait qu'ils en brillaient et reflétaient la lumière du globe magique. Laissant courir ses doigts sur cette surface presque aussi douce que de la soie, Richard s'émerveilla, en songeant aux efforts qu'une telle finition avait dû coûter aux artisans. Grâce à la lumière du globe, il vit que la pierre avait été taillée selon la méthode qui permettait de donner un aspect très réaliste au visage et aux parties visibles du corps des statues de marbre. De la pierre faite chair, en quelque sorte. À la sortie d'une courbe, tout aussi douce que les autres, Richard s'arrêta net en avisant des symboles gravés sur la paroi de gauche du tunnel. D'une précision et d'une finesse hors du commun, ces signes, contrairement à une fresque, étaient pratiquement insensibles au passage du temps. Le graveur, quel qu'il fût, avait fait en sorte que son œuvre survive tant que la montagne ne s'écroulerait pas. Plus loin dans le tunnel, ces symboles, accompagnés de dessins, couvraient le mur de haut en bas. Et le sourcier connaissait ces signes. « Venez par là !» dit Samantha en se retournant. Richard eut du mal à détourner le regard des multitudes de cercles imbriqués les uns dans les autres et des autres formes géométriques. Il accéléra pourtant le pas, conscient que Samantha s'impatientait. En avançant, il continua d'observer le mur et constata que les dessins, des emblèmes en réalité, étaient à la fois plus denses et plus complexes à mesure qu'on s'enfonçait dans le corridor. Cette implacable progression, on aurait même pu parler d'une sorte d'invasion foisonnante, soulignait l'importance et l'urgence des messages gravés dans la pierre. Au détour d'une autre courbe, Richard fut surpris d'apercevoir une vive lumière assez loin devant lui. Pas celle d'un ou de plusieurs globes lumineux comme il s'y attendait, mais celle du jour. Apparemment, elle semblait sourdre d'une sorte de fenêtre ou de soupirail ménagé dans le mur de gauche. Se reflétant sur celui de droite, qui faisait ainsi office de déflecteur, elle mettait encore plus en évidence les symboles et les cercles concentriques.
« C'est ici !»
annonça Samantha. Elle posa son globe magique sur un support de fer, puis avança jusqu'à l'îlot de lumière et désigna l'ouverture ronde qui béait dans la paroi. Richard accourut et découvrit qu'on avait foré un trou dans la roche, jusqu'à atteindre l'air libre, sur un des flancs de la montagne. Poussé par la curiosité, il mit sa tête dans ce portail circulaire afin de mieux voir. Taillé avec une grande précision et parfaitement rond, ses parois lisses mais non polies, ce conduit faisait environ 4 pieds de large pour une bonne dizaine de long, mais il allait en rétrécissant. À l'extrémité qui donnait sur l'air libre, il devait faire au maximum 3 pieds de large. Ce curieux évent, constata Richard, offrait une vue sur l'autre côté de la montagne, par rapport à la face qu'il avait dû gravir pour atteindre le village. Une ouverture donnant sur le nord.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Richard.
« Regardez par vous-même, Seigneur. »
S'accrochant au bord du trou, Richard se pencha un peu plus. Entendant le coup, il vit qu'une vallée s'étendait devant lui sous la lumière grisâtre de l'aube. Une forêt la bordait, mais il n'en apercevait qu'une chiche partie. Bien entendu, la longueur du conduit et sa forme cylindrique focalisaient la vue sur un point bien spécifique dans le lointain. Une faille entre des montagnes, à des lieues de là. Se penchant au maximum, Richard tenta d'évaluer la hauteur de ces pics, mais il dut vite renoncer car la configuration même de l'évent l'en empêchait. Il dut donc se contenter d'admirer d'infranchissables murailles de pierre flanquant une vallée. La faille, au bout d'un profond canyon, semblait être le seul moyen d'aller au-delà de la vallée. Grâce à son expérience de guide forestier, Richard savait à quel point il était difficile de trouver des voies praticables au milieu de la nature sauvage. Dans des régions de montagne, il n'y en avait bien souvent qu'une. En ce qui concernait ces pics, la vallée puis la faille paraissaient être le seul moyen d'accéder à leur autre versant.
« Que suis-je censé voir ?»
dit-il en sortant sa tête du conduit.
« Il faut utiliser ça !»
répondit Samantha en désignant 2 petites plaques de métal enchâssées dans la roche sur les côtés de l'ouverture. Un dessin contenant plusieurs motifs bien distincts entourait le conduit. Comme un peu plus tôt, Richard reconnut les symboles qui composaient cet étrange ornement. Insérés dans le dessin, les 2 plaques s'y mariaient si bien que Richard ne les avait pas remarquées. Environ de la taille de sa paume, elles étaient en bien meilleur état que celles qu'il avait vues jusque-là. Le sourcier nota cependant que le métal semblait avoir été poli par le contact d'innombrables mains.
« Je vais vous montrer. »
Sachant que le don du Seigneur Hall était neutralisé, Samantha se glissa sous son bras et se campa entre la roche et lui afin de pouvoir poser les mains sur les 2 plaques. Mince comme elle était, elle n'avait pas besoin de beaucoup d'espace et le sommet de son crâne atteignait à peine le milieu de la poitrine du sourcier.
« Penchez-vous au-dessus de moi et regardez. »
Samantha s'écarta un peu sur le côté, sans éloigner ses paumes des plaques, et Richard mit de nouveau la tête dans l'ouverture. À sa grande surprise, l'air ondula, un peu comme autour d'un feu, n'était qu'il décrivait des ondes concentriques à la façon de l'eau d'une mare quand on vient d'y jeter un caillou. Cette espèce de tourbillon fit tourner la tête de Richard, lui donnant une vague nausée. Puis le phénomène cessa, et le paysage de montagne réapparut, semblant soudain beaucoup plus proche, comme si les pics imposants avaient changé de position en un clin d'œil. Quand ses yeux se furent accoutumés à la lumière désormais plus vive qui éclairait la scène, Richard vit qu'il y avait un édifice en travers de la faille. Un mur, visiblement conçu par l'homme, barrait inexorablement le chemin. Plissant les yeux, le sourcier étudia ce mur colossal, l'égal au minimum des créations humaines les plus imposantes qu'il ait jamais vues, qui dominait la vallée richement boisée. Au centre de ce mur, également en pierre et s'élevant encore plus haut dans le ciel, se dressait ce qui semblait être la gueule ouverte d'un monstre, la pointe de ses crocs arrivant juste au-dessus d'un grand portail, comme si le franchir était revenu à se jeter dans le gosier géant d'une improbable et grotesque créature de pierre. Des doubles portes aussi impressionnantes que le mur lui-même défendaient ce passage vers l'inconnu. Enfin, auraient dû défendre, car elles étaient ouvertes. Richard sortit la tête du conduit. Dès que Samantha eut retiré ses mains des plaques de métal, l'image rapprochée disparut, remplacée par le premier panorama qu'avait vu le sourcier.
« Le mur du Nord !»
dit simplement Samantha.
« Le mur du Nord ?»
répéta Richard, son ton indiquant qu'il ignorait de quoi il s'agissait.
« Depuis que je suis né, ces portes ont toujours été fermées. Et il en allait de même avant la naissance de ma mère. En fait, depuis que mon peuple vit ici, il en a toujours été ainsi. »«
Sais-tu depuis quand ton peuple est ici ?»«
Pas exactement. Des milliers d'années, je crois. Mais ma mère avait à peine commencé à me former à notre mission. Le devoir sacré des détenteurs du don, c'est de surveiller le mur du Nord, Seigneur. Au milieu d'une leçon, la dernière que j'ai reçue, ma mère s'est aperçue que les portes étaient ouvertes. Je ne l'avais jamais vue si bouleversée. Répétant qu'elle n'aurait jamais cru voir ça de son vivant, elle semblait furieuse contre elle-même.
Pourquoi cette colère?
Elle a dit que la venue de Jit aurait dû éveiller ses soupçons. Pour qu'une telle créature soit entrée dans les terres noires, il fallait bien que le mur du Nord ait cessé de remplir son office. Oui, des monstres le traversaient d'une manière ou d'une autre. Seigneur, la pitié silence n'appartenait pas à notre monde. Elle venait de l'autre côté du mur, comme d'autres créatures dont nous avions entendu parler. Ma mère savait que quelque chose ne tournait pas rond, mais elle n'avait pas fait le rapprochement avec le mur du Nord. Quand je lui ai demandé des explications, elle m'a dit que la vie telle que nous la connaissons ne serait plus jamais la même. Le monde des vivants, a-t-elle ajouté, risquait de ne pas survivre aux épreuves qui l'attendaient. Terrifiée, j'ai demandé plus d'explications, mais elle n'avait plus de temps à me consacrer. Avant de partir au pas de course, elle m'a juste dit qu'elle devait y aller avant qu'il soit trop tard.
« Aller où ?» demanda Richard après avoir jeté un coup d'œil soupçonneux à l'ouverture.
« Aller avertir ceux qui devaient savoir ?»
Une réponse qui n'avança pas beaucoup le sourcier.
« C'est pour ça que tes parents sont partis ? Pour aller prévenir quelqu'un ?»
Samantha acquiesça, puis baissa les yeux.
Ils sont morts, mon père en tout cas, alors qu'ils étaient en chemin pour la forteresse. Remplissant leur mission, ils auraient annoncé au Conseil des sorciers que le mur du Nord ne remplissait plus sa fonction.
Le Conseil des sorciers? Il n'y a rien de semblable à la forteresse.
Samantha sursauta.
Quoi? Vous êtes sûr?
Certain, oui. En tout cas, il n'y en a plus depuis très longtemps. Jusqu'à ce que mon grand-père s'y installe avec quelques personnes, la forteresse du sorcier était déserte.